40 minutes plus tard, c'est bien plus long que de changer un disque sur un électrophone. 40 minutes plus tard, il est donc 11h26, c'est toujours le 24 décembre, un mardi, il faudra vous en souvenir. Une petite voix grésille dans les haut-parleurs du Cap Kennedy. Sobrement, est-il soulagé, il ne le dira jamais. Lovell annonce, nous avons réussi.
We've got it, we've got it. Apollo 8 now in lunar orbit, sir.
We have got it, nous l'avons eu. La salle silencieuse se transforme en un vrai champ de foire. Tous se lèvent, porteurs poussent en l'air, se flanquent de grandes tapes sur l'épaule. Quelle joie. Ils l'ont eu, oui. La fantastique aventure du siècle est réalisée. Un technicien signale que la vitesse d'Apollo est inférieure d'un pied seconde, c'est-à-dire à 30 cm près de la vitesse prévue. Les calculs ont vraiment été parfaits.
En 4 minutes et 5 secondes, toujours le temps d'une chanson, le propulseur a freiné Apollo 8. Les trois cosmonautes sont désormais les premiers hommes à voler en orbite autour de la Lune. Là encore, les calculs ont été parfaits. Ils tournent entre 113 et 312 km de la Lune. Au passage, la Terre prend une leçon de vocabulaire. Il faut dire, 113 km de périlune et 312 km d'apolune. Si la manœuvre avait échoué, Apollo 8 devait s'écraser sur la Lune ou revenir en catastrophe sur la Terre. Lucien Barnier, chroniqueur scientifique à RTL, laisse percer un certain soulagement et même de l'enthousiasme.
Ce qui me surprend, c'est la dextérité de ces hommes, en particulier de Borman, puisque c'est le commandant de bord, comme pilote. Et puis les autres pour toutes les tâches qu'ils accomplissent. Mais enfin, le pilotage d'Apollo 8, sa mise sur orbite lunaire, au moment où cet engin était dans la nuit, coupé des stations terrestres, puisqu'il se trouvait dans le cône de silence de la Lune, de l'autre côté de la Lune. Il ne voyait pas la Lune, sinon faiblement éclairée en dessous, et un mince ruban par le clair de terre. Et bien malgré cela, lorsqu'il est sorti de ce cône de silence et que l'un d'entre eux a dit « nous l'avons eu, cette fois nous sommes satellisés », quand on s'est rendu compte, quand la NASA a fait les mesures, elle s'est rendue compte que tout était OK à 1 km 200 près. Alors là, on est confondu d'une part devant la qualité des instruments de navigation, car tout était naturellement parfaitement précis pour déterminer la hauteur par rapport à la Lune, la vitesse par rapport à la Lune, et non plus par rapport à la Terre qu'on avait quittée depuis 11 heures. Et enfin, la dextérité, le sang-froid de ces hommes, vraiment là... Il n'y a rien de semblable dans toute l'histoire des techniques de ce siècle.
Maintenant, les trois Américains peuvent s'accorder un peu de répit. Ils peuvent envoyer leur première carte postale de la Lune. La Lune est grise, on dirait du sable, les cratères sont parfaitement ronds, dit Jim Lovell. Nos cartes de la Lune sont exactes, tous les détails sont visibles.
La Lune n'a pas de couleur, elle est toute grise. On dirait qu'elle est faite en ciment et en plâtre. Et puis il prend un temps et dit, voici, il parle comme un guide, voici la mer de la fécondité, parsemée de cratères. Je passe maintenant sur un cratère qui a 6 terrasses. Je les vois distinctement, mais il n'y a rien que de la poussière. Puis il passe sur le cratère de Colomb, un cirque de 80 km de diamètre. La visibilité est excellente, dit Lovell. Et il ajoute encore, voici le cratère de Gutenberg. Et là, à gauche, un des points que nous devons examiner pour un débarquement futur. Voilà déjà, me semble-t-il, un point intéressant. Voici peut-être le premier aéroport lunaire. Déjà ici, il y a place pour nous.
Voilà le cadeau de Noël de la Mondovision. Pendant 16 minutes, à partir de 13h25 pile ce mardi-là, car Apollo 8 est plus précis que les chemins de fer, pendant donc 16 minutes, les terriens vont survoler en direct pour la première fois de leur histoire, à 112 km d'altitude, le sol bouleversé, lugubre, bombardé, inhumain de la planète des Séléniens. Apollo 8 rectifie encore sa trajectoire. Ils vont désormais graviter avec la placidité d'une horloge normande, entre 112 et 114 km d'altitude par rapport à la Lune. L'orbite est circulaire et pendant 8 fois 2 heures, les trois Américains vont continuer de nous raconter la Lune. Le monde des terriens pendant ce temps-là s'enfonce douillettement dans la nuit de Noël et les trois rois mages de 1968 vont réveillonner autour de la Lune.
Good luck, a Merry Christmas, and a
Et de la part de l'équipage d'Apollo 8, nous vous souhaitons une bonne nuit, bonne chance et joyeux Noël à vous tous sur cette terre.
Frank Borman n'oublie pas qu'à terre, il célèbre le culte épiscopalien. Pour ses enfants, au matin de Noël, comme devant l'arbre de lumière, il décrit le couchant, il décrit le levant, il récite la Genèse.
Et pour tous ceux qui sont restés sur terre, l'équipage d'Apollo 8 a un message que nous voudrions vous donner. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n'avait pas de forme. Et elle sortait des profondeurs de l'espace. Et l'Esprit de Dieu a amené l'eau à la surface de la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut, et c'était bien. Et Dieu a créé la lumière et l'ombre. Et maintenant, c'est Lovell qui parle. Avant, c'était Borman. Il lui a fallu 8 jours. Et Dieu a appelé ça le jour et la nuit. Et il a divisé les eaux des eaux. Il a créé le ciel et la terre. Et c'est Anders maintenant. Dieu a séché la terre. Et Dieu a dit que la terre se sèche. Et la terre s'est séchée. Et les eaux rassemblées, il les a appelées la mer. Et Dieu a dit que c'est bien.
Noël, le petit matin. Là va peut-être se jouer le drame. Apollo 8 doit maintenant s'arracher à l'attraction lunaire pour revenir vers la Terre. Que Dieu vous bénisse, vous tous sur la bonne Terre, dit encore Frank Borman. Il est très exactement 7h20 du matin. À Cap Kennedy, personne n'a réveillonné, c'est le grand moment. Tout peut être encore compromis. La machine peut encore trahir l'intelligence et le courage des hommes. Pendant 3 longs quarts d'heure, ce sera le silence. Au cours du dernier passage derrière la Lune, les 3 cosmonautes doivent reprendre de la vitesse et accélérer pour se dégager de l'orbite lunaire. À 7h25 enfin, le contact radio est rétabli. L'opération a duré 3 minutes 23 secondes au lieu de 3 minutes 17 secondes. C'est gagné. Ils reviennent.
Et maintenant, Borman vient de préciser. Oui, tout s'est très bien passé. Le moteur est parti.
7h27, c'est gagné.
Nous sortons maintenant de la Lune. Nous quittons la Lune. Et ça y est, c'est fait. Oui, Borman vous confirme. Tout a réussi. Nous sommes, dit-il, sur le chemin du retour.
Comme à l'aller, Apollo 8 va accélérer, doubler sa vitesse avant de ralentir, puis d'accélérer à nouveau encore à proximité de la Terre. Les 3 hommes sont fatigués, on laisse les commandes au marin William Anders. Le vol est si parfait, si précis, mais les hommes sont également si fatigués qu'on va les laisser presque au repos pendant toute la journée de Noël. Ils dégustent de la dinde en sachet, on souffle un peu, et comme après un assaut, ce sont des militaires, on plaisante. Un contrôleur de la NASA dit à Borman, « Vérifie si Bill, il s'agit d'Anders, a bien accroché ses chaussettes avant d'aller dormir. » Anders n'est pas endormi, il prend le micro. « Ok, je les ai mises à droite de mon nounours. » Dernière émission de télévision, Anders, lui encore, va jouer les Raymond Oliver. Il montre en mondovision comment on se nourrit dans une cabine spatiale et comment on boit du jus d'orange en suçant un tuyau de plastique. Jeudi 26 décembre, le retour paraît long, très long aux cosmonautes. Il réclame un peu de musique. Les astronautes, ce jour-là, se reposent et surtout, ils se préparent aux dernières épreuves du lendemain. Ce sera terrible. Il faudra à 40 000 km/h arriver dans un couloir de 34 km. Si la cabine va trop vite, si elle rate sa cible, à quelques centaines de mètres près, elle explose, elle se désintègre dans les couches denses de l'atmosphère. Si par contre elle arrive trop lentement, elle va rebondir sur ces mêmes couches et repartir sans espoir de sauvetage comme une toupie folle dans l'espace. Les dernières heures vont passer très vite. Comme un météore, Apollo 8 plonge vers la Terre.